voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Jean-Michel Ribes. Ce soir, sont-elles si importantes les premières années de la vie ?
Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour Jérôme Clément.
Donc toujours dans votre bureau au Théâtre du Rond-Point, pour cette quatrième émission. Les trois jours précédents, nous avons évoqué votre carrière théâtrale, les 20 ans du Rond-Point, et la période qui a précédé le Rond-Point, longue et riche, et puis vos aventures cinématographiques et audiovisuelles, votre rapport à l'image, Merci Bernard, Palace et les films que vous avez réalisés. Et maintenant que nous vous connaissons bien par votre travail, mieux en tout cas, aujourd'hui nous allons faire un petit retour en arrière, revenir sur votre parcours et se demander comment vous en êtes arrivé là. Donc on va partir du début, c'est ce qui est le plus simple.
Ah oui.
Alors il y a la petite enfance. Vous avez écrit à ce sujet, sont-elles si importantes que cela, les premières années de la vie ? Le mois de juillet chez mon père, le mois d'août chez ma mère, le reste de l'année à me recoller. Bon, on voit qu'il y a eu des brisures et des séparations, on va y venir, mais ces premières années, elles ont été comment pour vous, les souvenirs ?
Ben, je crois que je dis qu'est-ce qu'elles sont aussi importantes que ça, parce que ça me semble évident que ce qu'il y a de plus important, c'est comment on les répare. C'est les années où on les répare, c'est les années où on essaye de se reconstruire, de se départir des traumatismes de l'enfance. Et ces années-là, elles sont très importantes. N'empêche qu'elles dépendent évidemment des blessures de l'enfance. Eh ben, moi, j'étais un enfant plutôt vivant, joueur, batailleur, etc. Mais aussi extrêmement sensible, extrêmement sentimental. Et c'est vrai que la séparation de mes parents a été une chose très violente pour moi, surtout dans la mesure où je suis resté après avec ma mère. Et j'avais 6 ans et elle pleurait, elle était malade. Et j'étais finalement le seul homme de la maison. J'étais son accompagnateur. Et à 6 ans, c'est très lourd d'avoir cette sensation d'aider quelqu'un qui normalement doit vous protéger, doit vous entourer de son affection, et vous devez la tenir debout. Ça a été à la fois quelque chose de violent, de dur, et en même temps quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup approché de ma mère.
Mais quel milieu familial c'était ? C'était un milieu de bourgeoisie moyenne, je crois, vous avez dit dans un de vos livres. C'était...
Non, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il n'y a pas un personnage de la culture ou dans ce métier que j'entends qui me dise, tu sais, je viens d'un milieu très modeste, tu sais, mes parents avaient à peine de quoi me nourrir. Enfin, il y a une espèce de pathos, Les Misérables, toujours pour montrer à quel point ils s'en étaient sortis. Non, pas du tout. Moi, je viens d'un milieu, pas de bourgeoisie moyenne, plutôt de bonne bourgeoisie. Pas au sens moral, mais au sens financier. Mon père était, mon grand-père était quelqu'un qui avait fait qui avait créé des entreprises de fiducialité, c'est-à-dire qu'il s'occupait de la gestion de toutes les pharmacies en France. Et ma mère venait d'un milieu plus extravagant. C'est-à-dire qu'elle avait un père argentin qui est mort très tôt, et ma grand-mère maternelle qui était une modiste. Voilà.
Suzanne Castelli.
Oui.
Alors Suzanne Castelli, vous avez fait un très beau portrait.
Oui.
Très beau portrait dans Mille et un morceaux.
Oui.
Et disant qu'elle a beaucoup compté pour vous.
Oui, parce que la branche...
importante, et aussi la maison dans laquelle vous étiez.
Oui. Miramontès, c'était une maison.
Oui,
c'était dans les Pyrénées. Ma fantaisie, je dois dire, si toutefois j'en ai une, elle vient directement de la branche maternelle. Ma grand-mère était quelqu'un de tout à fait drôlatique, étonnant. qui se partageait entre une pudibonderie religieuse, elle allait voir les curés, elle venait à la messe, etc. Mais en même temps, elle allait voir des sorciers, elle allait voir des voyants, elle allait voir des gens parallèles à la religion, et elle riait beaucoup. C'était quelqu'un qui avait une espèce de fou rire permanent, elle avait une légèreté, un humour très très drôle, et je dois dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup beaucoup ri. Elle n'était pas du tout sérieuse, au sens où la grand-mère, on va aller chez ses grands-parents, ils vont s'occuper de moi, les grands-parents gâteaux, pas du tout.
Je vous cite à ce sujet, parler de votre grand-mère. Disons qu'elle me servait de cobaye pour une expérience qui me permit de comprendre par la suite que lorsqu'on n'est ni celui qui court le plus vite, ni le plus beau, ni le plus fort en géographie, déclencher le rire permet de se frayer un chemin dans une société qui ne vous avait pas réservé la meilleure place.
Oui, exactement.
Tout est dit, là.
C'est ça, exactement.
C'est presque votre question, votre vocation du rire, c'est faite pour faire rire votre grand-mère,
dont vous parliez. C'est-à-dire que c'est à la fois pour faire rire ma grand-mère et c'est en même temps pour tenter de rentrer dans cette société que je ne ressentais pas bien, comme je vous disais, cette espèce de réalité à laquelle j'étais un peu allergique, en tout cas pas équipé pour la supporter, et tout d'un coup de me faire accepter par elle. C'est-à-dire que voilà, c'était mon arme à moi, c'était mon petit don, j'en avais pas d'autre.
Oui, c'est pas mal, ça vous a amené quand même assez loin, on l'a vu, mais alors en attendant, il y a eu cette séparation très 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 douloureuse, vous disiez que vous aviez été ensuite avec votre mère, mais malmené aussi par les maîtres différents de l'école privée, où vous n'êtes pas épanoui, le cours Monceau, Stanislas, l'école Gerson, enfin... Il y a beaucoup d'écoles
Je me souviens, j'avais à l'école communale de la rue Chernobyl, j'avais un professeur qui me coinçait les joues entre ses deux doigts et qui me soulevait comme ça, et qui après me faisait mettre à genoux sur une règle en acier. Je sais pas, il avait une détestation pour moi, d'une certaine manière, qui me flattait parce que c'était un tel connard que d'être détesté par les connards, c'est toujours satisfaisant.
Oui, alors... Il y a aussi des bons côtés, parce que votre mère se remarie, ou en tout cas prend pour compagnon Jean Cortot.
Oui, elle se remarie, et ça a été évidemment, ce choix de Jean Cortot a été déterminant pour moi, dans ma vie, déterminant. Alors vraiment, c'est quelqu'un qui m'a... C'était un peintre.
Le fils d'Alfred Cortot, le grand pianiste.
Exactement, c'était un peintre, et c'était quelqu'un qui m'a tout d'un coup... Il n'a jamais pris la place d'un beau-père en disant voilà ce qu'il faut faire, éducateur, enseignant, ça, pas du tout. Il m'a ouvert un monde, il m'a montré comment on pouvait faire autre chose, aller ailleurs, sortir des chemins tracés. Et puis surtout, j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'assister à tous ces déjeuners qu'il y avait chez moi, rue des Bacs, enfin, chez ma mère et mon beau-père, et Jean. Il y avait Raymond Queneau qui venait, il y avait Kundera, il y avait...
Il y a d'ailleurs des récits formidables pour le déjeuner avec Paredes.
Oui, ah oui, parce que oui.
Raymond Queneau et sa femme,
c'est il y avait sa femme, Sainte Queneau, qui était Zazie. C'était Zazie. Et Zazie, c'est une petite bonne femme, très discrète, mais qui n'avait qu'une envie, c'est de faire rire Raymond Queneau. Et un jour, il y avait Paredes, un acteur de la troupe de Barreau, fort gueule, grand comme ça, très drôle, très sympathique, totalement homosexuel. Et tout d'un coup, au milieu du repas, très discrètement, Jeannine s'est penchée vers lui et lui a dit « Je suis content que vous soyez là, monsieur Paredes, parce que j'ai toujours posé une question. Est-ce que ça fait du mal de se faire enculer ?» Et là, Raymond Queneau est tombé dans son assiette avec un fou rire dans son assiette. Elle faisait des choses comme ça. C'était absolument récent. Mais il y avait d'autres gens. Il y avait Miro aussi, le peintre Miro. Moi, je ne savais pas qui étaient ces gens-là. Giacometti, etc. Moi, je ne savais pas qui c'était. C'était des gens célèbres. Mais enfin, c'était des gens qui...
C'est stimulant.
En tout cas, c'était des gens qui vous rassuraient en se disant que finalement, être adulte, c'est pas impossible. Parce que eux, ils étaient toujours des enfants, finalement.
Oui, ils s'amusaient bien, on rigolait, ils étaient brillants, intellectuellement.
Ils n'avaient pas, la grisaille qu'on a en s'imaginant ce que c'est d'être adulte et devoir aller être clerc de notaire.
Et puis alors, il y a cette brisure à 14 ans, la représentation de Plouft, le petit fantôme à la Cité universitaire, où votre père prend ombrage du fait que vous montiez sur les planches. Votre père, on en parlera tout à l'heure, et il obtient judiciairement le fait que vous soyez retiré à la garde de votre mère et que vous soyez placé en pension.
Oui, c'est même plus extraordinaire que ça, de ça, c'est ça, c'est ça, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il ne supportait pas l'idée même, c'était vraiment, lui, un grand bourgeois, le théâtre et les comédiens, c'était des gens bons pour l'échafaud, ou en tout cas, qui étaient vraiment hors d'une société à la fois bien tempérée et bien élevée, et tout d'un coup, il a été affolé, alors qu'il ne me voyait pas, je ne le voyais pas, il a été affolé à l'idée que ça se sache, et en effet, il a fait un procès, et moi j'étais me réfugier, c'est un ami qui était dans l'Oise, Serge Pelletier, qui était mon meilleur ami d'école à cette époque, et qui m'avait accueilli avec ses parents, et un jour des gendarmes sont venus me chercher, parce que le jugement avait été que je devais aller non pas chez mon père, non pas chez ma mère, mais entre les deux en pension. Et moi, je voulais pas. Et pour appliquer le jugement, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai été mis en pension, une pension très étrange, une espèce de Walt Disney de la pension. C'est-à-dire, tout était faux. C'était des gens qui avaient essayé de mettre, vous savez, comme les de construire un collège comme les collèges anglais, les finishing schools, très avec châtiment corporel et tout ça. C'était des Suisses qui avaient essayé d'implanter ça. C'était assez ridicule, mais terriblement douloureux aussi, parce que comme tous les gens qui espèrent être espèrent être de l'alcool et finalement sont de la vinasse, c'était mal fait. Et c'était donc à Versailles, ça s'appelait le Moncel. Simplement, comme on y rentrait comme dans un château, comme dans une porte ouverte et tout ça, il y avait quand même des tas de gens qui avaient atterri là, qu'on ne savait pas où mettre. Et comme toujours, parmi ces gens un peu ratés, un peu voyous, un peu, comment dirais-je, qui ne réussissaient pas leur scolarité, il y avait des gens passionnants. Et parmi ces gens passionnants,
on va en parler.
Il y avait celui qui est devenu mon meilleur ami, Gérard Garros, mais il y avait aussi Modiano, un peu plus vieux que moi. Mais il y avait d'ailleurs Modiano parle très très bien de ce pensionnat dans Pédigré, son livre, et aussi dans De si beaux garçons.
L'école du Moncel, effectivement, vous l'avez rendue célèbre. Enfin, elle a été rendue célèbre par tous les gens un peu connus qui sont passés, dont notamment vous, Garous, enfin Modiano, dont vous parlez. Mais enfin, c'était une école extrêmement sévère, quoi. C'était une espèce de discipline militaire absolument horrible. Enfin, le récit que vous en faites.
Oui, mais ça l'était. Mais si vous voulez, ça l'était d'autant plus qu'ils voulaient faire comme les autres. Et pour faire comme les autres, c'est-à-dire les Anglais, qui avaient quand même un peu de noblesse dans tout ça, un peu d'absurdité, un peu d'humour, il le faisait deux fois plus pour être sûr que ce soit reconnu comme tel. Donc il y avait ces règles, marche au pas à 6 heures du matin, lever des couleurs, etc., etc. Les élèves, évidemment.
La devise était vivre.
Agir. Et alors, agir. Il y avait des capitaines, des aspirants. Les élèves étaient nommés pions, finalement, pour surveiller les autres. Donc, tout ça, ça faisait une espèce de mafia, d'omerta à l'intérieur. C'était très étrange.
Oui. Vous avez subi des sévices quand même sévères aussi, et des punitions et des privations de liberté. Enfin, c'était horrible.
Il y avait des bizutages terrifiants. On nous coinçait dans les ressorts des...
Et on marchait dessus.
Les lattes de lit, on nous marchait dessus. Et en même temps, ça nous a... Je me le serais bien évité, parce que je n'aime pas cette morale qui consiste à dire plus on a d'échecs, plus ça vous apprend à vivre. Oui. Moi, je trouve que ce qui nous apprend à vivre, c'est la réussite. Et il vaut mieux avoir que des réussites plutôt que des échecs. Mais enfin, mais ça nous a quand même formés. Il y avait aussi Michel Sardou qui était là, le chanteur, qui était un révolté, qui a cassé la gueule du surveillant général, qui est sorti. Enfin, il y avait une espèce de faune dans cette histoire tenue par des enseignants et des surveillants généraux suisses. C'était très étrange.
Modiano, dans Pédigré, il écrit effectivement « À l'école du Moncel se trouvaient des enfants mal aimés, des bâtards, des enfants perdus. Je me souviens d'un Brésilien qui fut longtemps mon voisin de dortoir, sans nouvelles de ses parents depuis 2 ans. comme s'il l'avait mis à la consigne d'une gare oubliée.
Oui, c'est exactement ça, ça c'est très beau. Les enfants mal aimés, c'est vrai. On ne sortait pas, et en plus on était punis par nos amis, qui étaient aussi des élèves, et ils pouvaient nous empêcher de sortir.
Il y avait d'ailleurs, vous le racontez aussi, beaucoup de corruption. On se doyait beaucoup les uns les autres pour survivre.
Vous parlez du pouvoir tout à l'heure, tous ces jeunes gens qui tout d'un coup avaient le pouvoir de devenir capitaine ou de pouvoir diriger les autres. Alors, ils supprimaient les romans policiers, vous êtes obligés après de leur racheter, des trafics comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on m'a mis dans cet endroit pour m'extirper du théâtre, m'extirper de la scène, ne plus jamais faire ça, et qu'un an après, je remontais avec quelques amis, je refaisais du théâtre dans le collège, il y avait une petite salle, qui était une salle de cinéma, c'est beaucoup dire, mais enfin une petite salle avec des fauteuils, des rangées, et j'avais réussi à convaincre certains professeurs de me laisser monter des spectacles. Et on avait monté, je me souviens, Orion le tueur, qu'avait joué les frères Jacques et les précieuses ridicules. On était tous habillés en filles, évidemment, c'était assez curieux.
Ça allait être cocasse, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de trace de ce spectacle. Mais est-ce que c'est de là qu'est venue votre aversion pour la nature, qu'on voit encore mieux en TGV parce que ça va plus vite? Parce que quand vous étiez puni, vous étiez obligé d'aller faire du jardinage. La punition, c'était 2 heures de jardinage.
Oui, c'est ça.
Rib, 2 heures de jardinage.
Oui, ça n'a pas arrangé.
Ça n'a pas arrangé votre rapport avec la nature.
Mon rapport avec la nature, ça n'a pas arrangé non plus le fait que je trouve qu'on est beaucoup mieux au milieu d'une ville, dans les musées, les cinémas et les théâtres, qu'au milieu d'un champ de maïs. Mais non, c'est vrai que ça m'était insupportable. Mais il y avait surtout une chose qui m'était insupportable quand on est dans la nature, ce qu'on ressent moins dans une ville à cause de l'éclairage public, c'est les jours qui rétrécissent. Mmh. La nuit qui arrive plus vite. Et ça, c'est vrai que c'était une chose qui m'angoissait beaucoup, surtout qu'on le vivait pleinement, vu qu'on était vraiment à côté de Versailles, dans la nature, dans un grand parc, qui était d'ailleurs, paraît-il, assez beau. Et j'en appréciais pas l'esthétique. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas réconcilié avec les parterres de fleurs et les...
La nature.
Et les arbres. Non.
Alors le père, parce qu'il est à la fois très présent et très absent dans toute cette période et dans toute votre vie d'ailleurs, vous en parlez... Il faut chercher quand même pour arriver à voir ce que vous en pensez, ce qui correspond assez bien d'ailleurs à votre relation avec lui finalement. Il est caché derrière, dans les pages, dans les phrases, comme si c'était une quête qui n'a jamais abouti.
Oui, c'est-à-dire que mon père était, s'il n'avait pas été, il a choisi d'être ce qu'il a été, c'est-à-dire mon père était un jouisseur, était quelqu'un qui aimait vivre, qui aimait l'argent, qui aimait le luxe, ça. Mais c'était quelqu'un de très très intelligent, très sensible, très rapide, et avec qui j'aurais dû et j'aurais pu entretenir une formidable complicité. Il m'aimait beaucoup, mais il était empêché par son statut presque de bourgeois, par son statut de président, directeur général, je ne sais quoi.
Et puis il a député UDR ensuite.
Oui, c'est un ami de Pompidou.
Oui, il a été député de UDR.
Oui, il a été trésorier, je crois.
Et secrétaire d'État.
Oui, secrétaire d'État au PTT à la fin, sous Giscard. Oui. Mais je le voyais très peu. Et puis je voyais bien que... En vérité, on se comprenait sous la table, mais socialement, on était trop différents. Ils ne pouvaient pas supporter ce que je faisais, ce que j'étais. Et moi, j'avais énormément de tendresse. Je me souviens, je lui écrivais des lettres, et je me suis aperçu un jour, il me l'a avoué qu'il ne les avait jamais lues parce qu'il n'avait jamais ouvert les enveloppes, parce qu'il avait peur de se retrouver face à lui-même, peut-être, face à cette personne qu'il aurait pu être, qu'il n'a pas été, choisissant la voie du confort et de la facilité, aidé en ça par ma belle-mère. Mais c'est comme ça. C'est un ratage. Mais un ratage qui a été très longtemps douloureux. Et vous savez,
sauf à la chasse.
Oui. Alors, bah, c'était
le seul moment où vous vous trouviez, c'est curieusement, c'est... venant de vous, on n'imagine pas, on ne voit pas Jean-Michel Ribes avec un fusil sur l'épaule, mais vous avez...
Oui, je l'ai été, alors curieusement, j'étais, peut-être que ça continue maintenant, j'étais un excellent tireur, naturellement, à tel point que quand il avait des invités dans sa chasse, moi, il me cachait derrière eux dans les bois et je tirais pour penser que ce sont eux qui ont tué les faisans.
Ah
les
oui, perdants. C'était bien.
Oui, j'étais un flingueur pour ça.
Champion du monde de tir au pigeon.
Oui, mon père, oui. Parfois, il partait seul avec son chien comme ça et il m'emmenait. Et c'était le moment le plus merveilleux pour moi parce que là, j'étais seul avec lui. Il n'y avait pas le déguisement de la société, le déguisement du paraître. Et c'est vrai que là, je m'apercevais qu'on aurait pu très, très bien... être deux personnes qui auraient partagé beaucoup de choses.
Vous le dites sur la chasse, ce qui me plaisait, c'était pas la chasse, c'était d'être avec mon père dont je sentais que j'étais enfin le fils.
Oui, exactement. Il l'a accepté tout à coup. Parce que moi, par exemple, je me souviens, il m'invitait parfois chez lui à déjeuner de temps en temps avec sa femme et ses amis. Et je me souviens qu'un jour, j'avais parlé de 8,5 de Fellini. Et là, c'était comme si j'avais parlé de je ne sais quelle obscénité, d'horreur, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on s'en fout, c'est pas du tout ça la vie. Ça. Donc on était vraiment, je le gênais, ce que j'étais à la fois le gêné, le gêné par rapport à la vie dans laquelle il s'était installé, mais en même temps, il le ressentait et il savait très très bien que lui aussi aurait aimé être ça. Ressentir ça.
Mon père si peu présent et qu'il est tellement en moi.
Oui.
Écrivez-vous. Et aujourd'hui, vous en êtes où avec lui ?
Vous savez, j'ai des choses étonnantes. Vous savez, il y a une pièce qui s'appelle Les Revenants de Strindberg qui m'avait marqué. Mais par moment, je sens que j'ai des attitudes physiques ou des réflexes ou des manières d'envisager les gens comme mon père. Par moment, je le ressens en moi. Par moment, je me regarde dans la glace et je me dis, il est là aussi. Quelque part, il m'a abandonné complètement. Et il ne m'a pas abandonné parce qu'il a eu peut-être l'espèce de mère subliminale façon de me retrouver en me donnant des, comment dirais-je, des émotions qui étaient un peu de son portrait, qui étaient un peu de lui-même et que j'ai gardé en moi.
C'est assez beau, cette persistance, finalement, dans le souvenir qui se modifie au fur et à mesure de la vie.
Oui, je crois qu'on est fait de choses comme ça, parfois.
Bien sûr.
Moi, je veux dire que les grands discours, les grandes idéologies, les grands raisonnements, les grandes choses qui prouvent, les gens qui savent et tout ça... me cassent un peu les pieds et ne m'accrochent pas très, très vite parce que un raisonnement, on peut opposer un autre raisonnement, où ça va, la psychologie finalement m'ennuie beaucoup. Par contre, le sentiment, le rapport immédiat, l'amour, les émotions, c'est ce qui me parle le plus.
On a le sentiment à vous écouter et à vous lire que les amis, ça a été vraiment essentiel. Et alors, le Moncel vous a permis de vous lier avec Gérard Garouste, peintre fameux, avec Philippe Corsan.
Non, il n'était pas
au... Il n'était pas au Moncel, mais vous l'avez connu après. Oui.
Non,
mais ces trois-là, je dirais, je vous associe parce que ça a été vraiment un trio pendant très longtemps inséparable, notamment le fameux voyage en Turquie, que vous racontez avec beaucoup de drôlerie d'ailleurs.
Oui.
Le seul voyage de notre vie, dites-vous.
Oui,
le seul vrai voyage de notre vie.
Oui, c'était un voyage initiatique. On est parti en 4L depuis le sud de la France jusqu'au fin fond de la Turquie. Et c'était comme si on partait en exploration pour la jungle, pour tout. Il nous arrivait d'ailleurs une foule d'aventures absolument incroyables. Et c'est vrai que, mais vous voyez ces amis-là, ceux qui ont été des amis très rapidement, on a été proches très rapidement, on s'est retrouvés, on s'est reconnus très rapidement. Mais ceux d'après, que ce soit Roland Topor, que ce soit Jacques Villeray, que ce soit...
Roland Blanche, qui a
évidemment
beaucoup compté.
Absolument, qui est un comédien génial. Tous ces amis-là...
Grimbert.
Oui, Jean-Claude Grimbert, qui sont de différentes... qui viennent d'endroits différents, etc. On s'est tous... on est devenus très amis, je crois, Ça va vous sembler étrange, mais la porte d'entrée de notre amitié, ça a été le sens de l'humour, ça a été le second degré. Et à partir de là, on avait confiance, on savait qui on était, et on pouvait aller plus loin et se dire des choses beaucoup plus fortes. Ça a été très, très important, ça. On riait tous ensemble. La manière dont on envisageait le monde et la distance qu'on y prenait, ça a été le ciment de notre amitié.
Ouais. Qui est essentiel, on le voit autour de ça, mais aussi dans les liens, parce que vous vous méfiez de l'amour. Vous écrivez, à chaque fois qu'il y a de l'amour, il y a forcément de la séparation à venir, de l'aliénation. Et la séparation et l'abandon me détruisent. Avoir passé un an à l'hôpital après un chagrin d'amour, on a vacciné à jamais. Pour moi, amour dit désastre. Et vous dites aussi que l'affection, enfin un mot qui dit la vérité, l'amour est une maladie. Donc là, vous êtes plus du côté... Ça veut pas dire que vous n'avez pas des sentiments très forts, mais peut-être parce que vous avez des sentiments trop forts, vous êtes plus en sécurité avec l'amitié. Je me trompe peut-être.
Non, vous ne vous trompez pas forcément. C'est vrai que dans l'amour, il y a toujours un aspect passionnel, indispensable. On se raccroche à quelqu'un souvent qui est vital. Et comme toutes les choses vitales, on a peur que si elle s'arrête, ça soit beaucoup plus important que simplement une séparation. C'est comme ça, moi, que j'ai vécu les nombreuses rencontres que j'ai faites et qui m'ont donné beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Mais en même temps, cet abandon est très douloureux. Et je pense, là, pour revenir à le début de cette émission, que l'abandon de mon père a été quelque chose dont je ne suis jamais guéri. Et donc qui se répercutait à travers les femmes avec qui j'ai vécu, ou moi qui les abandonnais, ou elles qui m'abandonnaient. Et c'était vraiment beaucoup plus grave que ça ne l'est en général pour les gens.
Heureusement, il y a eu quand même aussi une surprise inouïe et énorme dans votre vie. C'est Alexis, votre fille.
Oui. Quand Alexis est né, j'ai été bouleversé, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis je me suis aperçu tout d'un coup que j'étais père. Et je me suis dit à ce moment-là, je ne veux pas être ce qu'a été mon père pour elle. Je veux rester proche d'elle et j'espère qu'elle restera proche de moi. Mais encore une fois, elle ne me doit rien, je ne lui dois rien, elle sera ce qu'elle sera. Et parce que les enfants ne vous appartiennent pas.
Merci Jean-Michel Ribes.
Je vous en prie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Jean-Michel Ribes. À voix nue, réalisation Anne Pérez Franquini, prise de son Thibaut Nachimbené, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.